dire la loupe, le truc passe.
Et après, il faut la connaître.
Ah.
Je suis d'accord, j'ai vécu la même chose.
Ouais. Ça, c'est horrible.
Il y avait des personnes qui, justement, l'avaient traduit cette lecture.
Oui.
Qui ont trouvé un autre, d'autres repères pour faire.
Oui.
Parce que c'est une question de vue, c'est pas une question de connaître ni la lettre ni la langue.
Puis il pourrait avoir en plus un fichier plus
rien. Le dernier, j'ai vu vraiment, j'ai été terriblement.
Ouais. Moi aussi, il y a récemment, j'ai eu chez un ophtalmo, c'est marrant quand on parle de ça.
Je crois que l'ophtalmo, c'est le plus horrible.
Ouais. Mais parce qu'en plus, il y a ce test de lecture. Moi le mien, il ne me supporte pas parce que je conteste, je lui dis, mais les mots, je les connais, je les devine. Enfin, la première syllabe, c'est bon, quoi. Donc, il ne faut pas remettre en question ce test.
Au contraire, avait adopté la langue étrangère, de l'étranger. Bah oui, il y a beaucoup de, comme on dit, l'arabe, bah oui, forcément, à un moment, on va pas y arriver, si toi tu ne fais pas les langues, il y en a qui le font.
Et c'est intéressant, ça en parle des gens qui, soi-disant, ne seraient pas autonomes parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. D'abord, on fabrique de la langue. La langue commune, elle se fabrique. C'est pas une langue, voilà, c'est pas... Ça se fabrique entre nous. Mais je pense à, dans l'émission là, du 8 avril, la France Culture, Azouz Begag, qui est un peu d'accord quand même avec ce qu'on est en train de se dire, mais qui dit quand même, ces jeunes, il faut qu'ils apprennent, puis elle est belle, la langue, il faudrait aimer la langue française en plus. Hein. Il y a cette idée-là aussi derrière. Il donne l'exemple d'un jeune qui passe en comparution immédiate et qui dit, oui, mais le juge lui dit, est-ce que vous contestez? Et il ne comprend pas. Le jeune ne comprend pas. Et le juge répète ce que vous contestez, il ne comprend pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne te demandes pas? J'ai envie de dire à Azouz Begag que tu ne te dis pas que le juge il pourrait reformuler. Que se comprendre, c'est chacun fait un effort pour se comprendre. Et on le fait quand on me dit, mais il faut la même langue pour se comprendre. Mais non, sinon il n'y aurait jamais de conflit de couple dans les couples monoculturels et monolingues. Hein.
L'employé de la préfecture va dire plusieurs fois, et vous m'apporterez un récépissé.
Oui, oui. Sans reformuler, la personne n'est pas sourde.
Tout le monde sait.
On devrait former ces gens-là. Hein. Ouais.
Etc.
Oui. Mais on ne les forme pas, et puis ils finissent aussi par adopter l'idéologie dominante de l'institution dans laquelle ils sont.
Il y en a qui sont vraiment.
Ah oui, oui, je sais.
Après, je crois qu'il y a aussi une volonté de mettre à certains postes à la préfecture.
Oui.
Certaines personnes.
Comment il s'appelait ce documentaire qui montrait à Paris l'accueil des demandeurs d'asile? Il y a une assistante sociale qui a fini par démissionner d'ailleurs parce qu'elle était devenue un agent un peu monstrueux quand même. J'ai oublié le nom de ce documentaire fabuleux. Comment? Les arrivants, merci.
Ah oui, j'ai jamais.
Elle a fini par démissionner, la fille qui craque. Elle est horrible, hein? Elle est horrible, mais c'est le système qui la rend horrible. Parce qu'elle n'a pas les moyens, lui dit qu'il faut réduire les prestations. Et on fait de toi un bourreau, tu ne supportes plus, quoi. Enfin, et je pense qu'aussi, il y a des enseignants qui souffrent d'être obligés d'imposer une langue dominante, du dominant. Hein? C'est incroyable qu'on confie à des agents de la préfecture.
Si toi, en tant qu'accompagnant, tu peux agir aussi en disant, je vous ai enregistré, je vais remettre ça à la presse, tu peux faire part aussi aux gens.
Azouz Begag a donné un truc que je trouve rigolo, il dit, moi je leur dis aux jeunes, quand les flics vous arrêtent et vous tutoient, vous leur dites, plaît-il? Vous allez voir, ils vont changer de régime. Peut-être leur donner quelques trucs comme ça, j'ai trouvé intéressant. Plaît-il? Pas mal, hein? Quand il te dit tes papiers, tu dis plaît-il? C'est un truc très aristocrate pour dire pardon, j'ai pas bien entendu, vous pouvez répéter, ça veut dire juste plaît-il, veut dire ça, tu vois.
Moi j'ai un exemple de glottophobie. Quand j'étais plus jeune, j'habitais en Alsace, et soit moi ou mes soeurs et frères ou mon cousin qui avons grandi donc dans l'école française. On maîtrisait la langue, on a commencé à maîtriser la langue à partir de 12 ans. Du coup, on accompagnait les anciens, parents, oncles, dans les démarches administratives très souvent. Ils étaient tous témoins de tout ce qui se passait à chaque fois. Et il y a un exemple qui était terrible, c'était mon oncle qui était en arrêt maladie. Et il a été convoqué par la sécurité sociale. Il me demande de l'accompagner. Je l'accompagne et je suis face à un parisien médecin. Qui pose des questions à mon oncle directement, qui ignore. Et il me dit, mais pourquoi votre oncle ne parle pas français? Ben, vous parlez alsacien, vous verrez qu'il parle l'alsacien. On est en Alsace. Et il me dit, c'est la France. Ben, je dis, oui, mais avant d'être la France, c'est l'Alsace. Parce que mon oncle et les anciens, ils avaient appris à parler alsacien avec les anciens ouvriers et tout ça. Et du coup, ils se débrouillaient en alsacien. Et lui, il était outré de ça. Et du coup, on était dans un conflit de territoire à travers ce truc-là. Quoi.
Oui, c'est important que tu parles de ça parce que tu vois, la génération de nos grands-parents ici en Provence, et qui venaient de l'étranger, souvent, nos arrière-grands-parents, moi j'ai un peu plus de 50 ans, donc ils étaient intégrés par le Provençal. C'est le Provençal qui servait, et puis alors, en plus quand ils venaient du Piémont, c'était facile ce Provençal. Et c'était, les langues régionales ont été aussi des langues d'intégration.
Et d'un autre côté, ça se passait super bien quand le médecin ou autre hein, parlait alsacien. Ils étaient ravis que mon oncle ou mon père parlait alsacien. Du coup, moi, j'étais exclue du truc. C'était très bien aussi. Enfin, ça, c'était très bien.
Ouais. Oui, parce que on veut absolument nous donner une identité commune. On est français, et puis maintenant, on doit être citoyen européen. Hein. C'est ça l'objectif des programmes. Mais moi, je ne me définis pas par ça d'abord, je me définis d'abord par la Méditerranée, la Provence, la Bretagne. Mais on veut absolument... Et voilà, l'histoire linguistique de la France, c'est l'histoire de l'éradication des langues régionales. Hein. C'est l'abbé Grégoire et ses fameux patois, le rapport Barrère, éradiquer les patois, hein. L'école de la République. Il faut que l'élève y vienne, comme m'avait dit un jour une de mes étudiantes, l'école c'est viens mais sans toi, sans toi.
Encore un sujet important. Excusez-moi, je parle.
Non, j'entends très bien.
C'est que le maîtresse, formatrice, excusez-moi, le raciste, parce que c'est mon opinion. Parce que si, par exemple, si tu es formatrice,
oui.
Ou formateur,
oui.
Il y a le racisme, tu ne peux pas faire ce métier.
Eh oui, mais. Mais il y en a. On a le collectif Racine des enseignants patriotes, par exemple. Ça existe. Vous ne connaissez pas?
Non.
Hein? C'est
pour
national.
Ouais. Ce sont des enseignants.
Ouais, dans l'éducation nationale.
Ouais. Ouais. Et chez les formateurs. Bah, de la xénophobie, quand même. Hein. Racisme, c'est pas un mot que j'aime bien, mais xénophobie, non? Sans aller jusque-là?
Oui, non, je dirais.
Ouais. Oui, non, mais qu'existe le collectif Racine des enseignants patriotes, je veux dire, moi, ça me fait trembler, quoi. Que des. C'est question à se poser sur. Blanchet dit beaucoup que si on remplaçait le mot langue par religion ou orientation sexuelle, on dirait clairement qu'il y a des pratiques discriminantes. Hein. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de tolérance alors que des tas de textes de protection de la personne, des textes internationaux, condamnent les discriminations linguistiques. La France, elle en fait pas un cheval de bataille. Hein.
À tel point que moi je travaille en collège, en IP2A ou en classe d'accueil, et on se retrouve avec des élèves d'autres classes qui sont souvent d'origine étrangère ou dont les parents ont été étrangers. Et donc les élèves de la deuxième ou de la troisième génération vont se moquer de lui parler des nouveaux arrivants. Alors, on essaie de faire un travail dans le collège de déconstruction de tout ça en parlant dans toutes les classes, en faisant attention. On ne se moque pas pour quelle est la raison, mais c'est de la même manière que des personnes qui ont subi le racisme
c'est ça.
Vont par la suite.
Oui, c'est ça, on les transforme en futurs agents glottophobes voilà. Avec selon les pratiques qu'on a. C'est vrai.
Et c'est parce qu'il y a cette espèce de domination mais qui traverse tous les trucs. Je veux dire. C'est le roumain qui va être critiqué par les arabes, et puis ça c'est transversal, c'est dans
mais une société dresse les gens les uns contre les autres.
Par rapport aux roumains, il y a par exemple les roumains eux-mêmes, on dit roumain, ils parlent roumain, alors que par exemple dans une classe, Moi, j'ai entendu, donc elles étaient trois filles, elles parlaient des langues différentes. Il y avait deux qui disaient, elle parle le roumain des paysans. Donc, il y a déjà de la discrimination dans le groupe roumain.
Oui, oui, ben oui.
Et, alors, n'en parlons pas aussi des Algériens, lui, il est oranais, il parle bonnois, il parle... tout ça, c'est des formes de glottophobie qui se passent dans une seule classe. Donc, si on a 18 élèves qui se moquent de l'accent de l'autre, des voyelles nasales, de celui qui ne peut pas dire « on »,« en », tout ça, c'est des formes, c'est des situations de glottophobie.
Et c'est le mépris de classe, hein, parce que ce que tu dis, voilà, lui parle un roumain rural, c'est du mépris de classe.
Et l'autre, elle parle un roumain urbain.
C'est les manières populaires de parler la langue qui sont un peu partout, dans la plupart des pays, stigmatisés.
Qu'on veut une langue policée, académique, écrite, correcte.
Et qu'on pense que réussir dans la vie, qu'est-ce que c'est réussir dans la vie? C'est forcément maîtriser la langue. Sarkozy a réussi à être président avec, je sais pas, il y a deux linguistes calvés, et j'ai oublié notre autre collègue, qui ont fait une étude du vocabulaire de Sarko. C'est limité à très peu de mots. Hein. Donc, voilà. Véronice, Jean-Véronice, qui est décédé il n'y a pas longtemps non plus. Mais... Et puis finalement, pendant tout ce temps qu'on met à ce qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle maîtriser cette langue standard, avec laquelle ils seront très peu en contact dans leur environnement de vie, en plus, actuel et sans doute futur, qui n'est pas présenté. On ne présente pas ça comme jouer avec la langue, comme avoir une palette de peintre, comme je disais tout à l'heure, comme être pluristylistique. Pendant qu'on fait ça, on ne les amène pas à avoir un esprit critique sur les discours. On ne les amène pas à utiliser LMSI et Pierre Thévenian, qui montrent bien qu'on est manipulé par les beaux discours. On n'a pas le temps de faire ça pendant qu'on essaie de maîtriser l'orthographe, la syntaxe. Hein,
d'ailleurs, ça me fait penser, il y a la CIMAN, entre autres associations, qui ont écrit un communiqué qui parle justement il faut garder une langue. Qui est la langue des administrations. Et aujourd'hui, c'est coïncidence qu'il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de classe pour apprendre le français. Pas de classe pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes, suffisamment de trucs. Le truc, c'est qu'on va donner des cours pour les nouveaux arrivants, mais moyennant un titre de séjour.
Oui.
Tu vas faire 1600 heures de cours et tu auras ton titre de séjour tu vas sur la République et machin.
L'instrumentalisation.
Ce qui fait que ça fait que beaucoup de laisser pour compte. Et que tout le monde...
C'est scandaleux de soumettre à l'attribution d'un titre de séjour sur des critères linguistiques. C'est fou, quoi. Quand on sait que ce pays avait tant de langues avant l'école de la Troisième République, quoi. Avant la Révolution française, quoi. Enfin, bon.
Mais on demande les langues parlées à la préfecture pour les étrangers. Oui. Il y a une fiche langue parlée.
Mais quand tu regardes
écrit pour... oral.
Oui. L'attribution de la nationalité, on parle même d'un test d'assimilation linguistique. On ose utiliser le mot assimilation. C'est hégémonique.